Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, l'Irlande ouvre le débat sur la fin de vie. Un projet de loi vient de passer la première lecture à l'Assemblée nationale pour permettre aux patients en phase terminale, sans plus aucun espoir de rémission, de bénéficier d'une assistance médicale à mourir. Emeline Vin a rencontré les architectes de ce texte.
Les derniers jours ont été éprouvants pour Vicky Filan, qui préfère ne pas activer la vidéo lors de notre entretien par ordinateur, par précaution sanitaire. La quadragénaire, dont on devine la détermination dans la voix, est atteinte d'un cancer du col de l'utérus, détecté en phase terminale à cause d'une erreur d'interprétation du frottis. Comme elle, 200 femmes seront victimes du scandale cervical check. Aujourd'hui, cette maman de deux enfants réclame le droit à choisir sa mort.
J'ai vu plusieurs femmes mourir de cette maladie. Le cancer du col de l'utérus fait partie de ces cancers où les docteurs n'arrivent pas à contrôler les symptômes jusqu'à la fin. Ils ne parviennent pas à atténuer la douleur. Les gens meurent en ayant mal. C'est ce qui m'attend dans pas si longtemps. On n'impose pas ça à nos bêtes. Les animaux meurent dans la douceur. Je ne vois pas pourquoi on ne permettrait pas aux gens de mourir eux aussi sereinement.
Le suicide est décriminalisé en Irlande depuis 1993, mais pas l'assistance au suicide. C'est la raison pour laquelle Vicky Filan refuse d'aller mourir en Suisse où elle est légale.
Si je vais dans l'un de ces pays, quiconque vient avec moi sera poursuivi en justice à son retour. Et puis, je ne veux pas mourir à l'étranger, je veux mourir chez moi.
Son combat contre les autorités sanitaires et contre la maladie a été largement médiatisé. Elle est devenue une figure respectée dans la société. Son soutien a été précieux pour l'auteur de la proposition de loi, le député socialiste Gino Kenny.
Quelqu'un comme Vicky qui dit « voilà ce qui m'attend ». Moi, je veux pouvoir bénéficier de cette loi. C'est incroyablement puissant. Personne ne peut contredire ça. Personne.
L'élu de Dublin est soulagé, mais pas surpris du soutien populaire à son projet dans une Irlande trop souvent représentée comme conservatrice. Selon le sondage le plus récent, 52% des Irlandais considèrent que l'assistance médicale à mourir doit être légalisée.
L'Irlande change en permanence. L'influence, le pouvoir de l'Église catholique s'érode depuis 20 ans. Le mariage pour tous, le droit à l'avortement, les deux ont été largement approuvés par référendum.
Conscient tout de même des réticences d'une partie de la population sur cette question, toujours très sensible, Gino Kenny envisage de proposer de soumettre le projet de loi sur la fin de vie à référendum. Le projet de loi ne concerne que les patients en phase terminale, pas les personnes atteintes de handicap ou de maladies chroniques, une limitation nécessaire pour le député et pour Vicky Filan.
Moi-même, j'ai souffert de dépression. Si la loi m'avait permis de mourir au moment où j'étais gravement dépressive, est-ce que je l'aurais demandé? Je crois, oui. Mais le fait est que je me suis sortie de ma dépression. Et je sais que tout le monde n'y arrive pas. Mais je crois qu'il y a un grand écart entre permettre aux personnes en phase terminale de mourir, quand elles savent qu'elles vont mourir et qu'il n'y a plus d'espoir, et l'autoriser pour les personnes dépressives, par exemple, alors qu'il reste la possibilité qu'elles aillent mieux.
Pour éviter les dérives, une rigoureuse évaluation psychologique doit être mise en place, estime Louise Campbell, chercheuse en éthique médicale. Il faut s'assurer que les malades ne se sentent pas comme un poids pour leurs proches, pour la société. Et pour ça, il faut plus investir dans le système de santé. Louise Campbell, elle aussi contactée par vidéo.
Il est impératif que les patients aient un maximum de possibilités pour que personne ne prenne la décision de mourir prématurément, parce que ce serait plus simple, par exemple, que d'entrer en soins palliatifs qui peuvent coûter cher.
Plus encore, Louise Campbell refuse de parler de droit à mourir. L'assistance médicale doit, selon elle, s'accompagner d'une clause de conscience pour les soignants.
Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un dans le métier de soigner de réaliser un acte qui va à l'encontre de ses valeurs profondes. Sans clause de conscience, il y aurait un exode massif de la profession.
Aucun soignant en soins palliatifs n'a souhaité donner son point de vue. Louise Campbell et Gino Kenny rappellent un point essentiel. Le projet de loi n'incite pas au suicide, il propose simplement le choix. Vicky Filan, d'ailleurs, n'a aucune envie de mourir.
Ça m'agace quand les gens me demandent « Mais pourquoi voulez-vous mourir ?»« Je ne veux pas mourir. Si un traitement est disponible demain, je le prends. J'ai deux jeunes enfants. Je ne veux pas mourir. Mais ça va arriver, c'est la réalité. Cette loi me permettra de choisir les circonstances de ma mort, tout comme j'ai choisi les moments importants de ma vie, me marier, avoir des enfants.
Seulement, l'ancienne enseignante a peu d'espoir que la proposition, qui vient d'entamer son périple parlementaire, devienne loi à temps pour elle.
Les Pays-Bas sont souvent considérés comme l'un des pays les plus avancés sur cette question. La loi permet aux médecins néerlandais de pratiquer l'euthanasie ou le suicide assisté, mais seulement en remplissant des conditions bien précises, là encore, même si, au fil des années, les autorités se montrent de plus en plus souples. À La Haye, Antoine Moutot.
En pleine crise du Covid-19, la nouvelle était passée presque inaperçue. Dans une lettre adressée le 13 octobre dernier au Parlement, le ministre de la Santé, Hugo de Jonge, a indiqué vouloir étendre l'accès à l'euthanasie aux enfants en phase terminale âgés de 1 à 12 ans. Jusqu'à maintenant, la loi ne le permettait que pour des bébés jusqu'à l'âge de 12 mois et des enfants de plus de 12 ans. Aux Pays-Bas, seul un très petit groupe est concerné, environ 5 à 10 enfants par an, souffrant souvent le martyre et n'ayant, selon les médecins, aucune chance de survie. Mais aux Pays-Bas, même si l'euthanasie comme le suicide assisté sont bien moins tabous que dans la plupart des pays, ils suscitent tout de même parfois encore des doutes. L'euthanasie en 2016 d'une femme atteinte de démence avait donné lieu à une affaire devant les tribunaux. Finalement, en avril dernier, la Cour de cassation a estimé que les médecins ont le droit d'interpréter les vœux écrits des patients atteints de démence. Il y a 4 ans, l'euthanasie pratiquée sur un ancien député chrétien-démocrate et son épouse avait aussi fait couler beaucoup d'encre. Franz Josef et Ronnie van der Heijden, 78 et 76 ans, ont décidé de mourir ensemble et de joindre à leur avis de décès un texte en faveur de l'euthanasie. Sous la plupart des articles traitant de leur mort, les médias néerlandais prennent souvent soin d'ajouter le message suivant « Si vous avez besoin d'aide, appelez le 113 », équivalent de SOS Amitié en France ou Prévention du suicide en Belgique, car les spécialistes sont formels, le simple fait d'évoquer le suicide, même assisté, peut encourager des personnes à passer à l'acte.
Et du côté de la vie, il y a ce métier essentiel, ces auxiliaires de vie qui aident les personnes âgées chez elles, dans leur quotidien. Mal payés, mal considérés, mal protégés, les auxiliaires de vie, en majorité des femmes, souffrent au travail et demandent un vrai statut depuis des années. C'est un reportage en Picardie de Lise Verbeek.
Bonjour. C'est la journaliste que je vous disais.
Ce matin-là, Sylvie Dufossé rend visite à l'une de ses bénéficiaires. Cette auxiliaire de vie a choisi ce métier par amour du contact avec les personnes âgées.
Il y a des liens là, qui se créent.
Asseyez-vous.
Pour Janine, 93 ans, avoir une auxiliaire de vie est indispensable dans son quotidien.
Elle me m'aide à m'habiller, à préparer parfois mon manger. C'est important parce que ça me fait une présence un petit peu. Je vois quelqu'un, mais je ne vois personne. Je suis tout seul.
Ben, on a préféré ça qu'une maison de retraite. Je pense que ma mère, bon, elle a 93 ans, elle est encore apte à certaines choses. Elle est autonome.
Une présence qui rassure son fils et qui fait du bien à Janine. Mais les auxiliaires de vie passent désormais en coup de vent chez elle. Elles n'ont plus le temps pour discuter car tout est chronométré, ce que regrette Sylvie Dufossé. Chez chaque bénéficiaire, elle reste 30 minutes, là où il y a quelques années, elle y passait une heure.
Plusieurs personnes où on voit, quand on n'a qu'une demi-heure, quand on arrive déjà, il faut chercher la clé. Moi, j'avais une maison où j'arrivais. En plus, c'était très lugubre. Il y avait un petit buisson. Il fallait attraper la clé dans un petit buisson. Il fallait ouvrir la grande barrière. Il fallait reprendre une autre clé pour ouvrir la porte d'entrée, lever la dame. Bien sûr, c'est les personnes âgées. On ne va pas les sortir du lit et puis les jeter du lit, quoi. Donc, leur faire leur toilette, leur donner leur petit déjeuner, les médicaments, la chaise percée, la vaisselle après, réfection du lit, aller chercher le courrier dans la boîte aux lettres, 30 minutes. Et imaginez quand c'est un homme, en plus, il faut le raser. Donc on fait comment? On rase un côté, puis on rase l'autre côté le lendemain. Et là, on va passer à la... Comment on appelle ça? Télégestion. Quand on a une demi-heure, au bout de 25 minutes, ça va sonner. Ça veut dire qu'il ne reste plus que 5 minutes. Alors, j'ai posé la question, on fait comment? Si on est en train de raser la personne ou faire la toilette, si on n'a pas fini que ça sonne. Mais il faut se débrouiller, il faut en faire moins. Donc on fait quoi? C'est de la maltraitance. Maltraitance pour les personnes âgées surtout, et aussi pour nous.
À cette impression de ne plus pouvoir exercer son métier correctement, s'ajoutent d'autres difficultés.
Bah, on peut commencer à travailler à 7h du matin jusqu'à midi, après on reprend l'après-midi pour faire le ménage. Après on a des coupures, on reprend le soir, on peut finir à 20h, 20h30. On travaillait jour férié, un week-end sur deux.
Et le corps est aussi éprouvé. Annie Queneuil est à la retraite depuis quelques mois et ses épaules la font encore souffrir.
Moi, j'adorais mon métier. C'est pareil, j'ai fini en maladie professionnelle parce que j'étais broyée. Quoi. Parce qu'on est seul face à la difficulté du métier. Ils ont tous un handicap plus ou moins lourd, mais quand on a une personne de 120 kilos, ben, il faut la manœuvrer tout seul. Même si on a un lève malade ou un quelque chose, il faut quand même la mettre dans le lève malade. Il y a beaucoup d'efforts à faire et c'est vraiment un métier usant.
Ça va plus. Hein.
Oh, ah. Mais si, ça va aller. Il faut vous laisser vivre. Il faut vous laisser
vivre. Mais c'est pas facile, madame. Non, tout seul, c'est pas facile. Se laisser vivre.
Tout cela payé au SMIC avec rarement des temps complets, donc des salaires à moins de 1000 euros par mois.
On prend notre voiture aussi. On est payé à 0,35 centimes du kilomètre depuis 2008 au moins. Jamais d'augmentation au niveau des kilomètres, des frais kilométriques. On a quand même notre voiture personnelle. Moi, je vois, j'ai des frais réguliers sur ma voiture en ce moment.
Ces conditions de travail découragent les auxiliaires de vie et les associations qui les emploient peinent à recruter. Ça, plus les arrêts de travail à répétition, désorganisent les plannings de tournée chez les bénéficiaires, avec souvent des couacs. Stéphane, le fils de Janine, a déjà dû se rendre en urgence chez sa mère car l'auxiliaire n'était pas passé.
Ma mère paye un service, donc on aimerait bien qu'il respecte quand même, mais bon, c'est pas le cas.
Et puis c'est important pour elle d'avoir toujours la même personne qui vient chez elle, j'imagine.
Je dis pas que la même personne, mais bon, qui respecte le planning. Parce qu'actuellement, là, elle est perdue. Là, sincèrement, elle me l'a dit il y a 10 minutes, elle est vraiment perdue.
Une situation qui ne peut plus durer pour Sylvie Dufossé et Annie Queneuil qui se battent inlassablement depuis 5 ans contre ces dysfonctionnements. Elles demandent à ce que leur métier soit revalorisé avec un vrai statut.
Il faut qu'il y ait une convention nationale unique. Voilà, il faut qu'on reconnaisse que c'est vraiment un vrai métier.
On fait le même travail qu'une aide-soignante et on est considérés comme des boniches.
Elles en appellent toutes les deux aux responsables politiques pour qu'ils reconnaissent enfin leur profession comme indispensable face à une population vieillissante.
La chronique en un mot se conjugue cette semaine avec le droit constitutionnel islandais. C'est ce que nous explique notre correspondant Jérémy Richard. Alors je ne vais pas me lancer dans la prononciation de l'islandais. Je vous laisse faire, Jérémy.
Hvar nýja stjórnarskráin? Où est la nouvelle constitution? S'interroge des tags de plusieurs couleurs dessinées au pochoir au cours de l'été sur les pavés de Laugavegur, la rue principale de Reykjavik, ou encore il y a quelques jours sur une immense peinture sur fond noir en lettres capitales blanches près de bâtiments officiels. Stjórnarskrá signifie littéralement en français la charte de ceux qui gouvernent et est ainsi couramment utilisée dans l'islandais moderne pour désigner la constitution.
Jérémy, pourquoi est-ce qu'on parle tellement de ce mot actuellement en Islande ?
Parce que depuis la mi-juin circule une pétition demandant au Parlement l'adoption de la nouvelle constitution rédigée entre 2010 et 2012. Cette dernière fait suite à la défiance du peuple islandais à l'égard de sa classe politique après la crise financière de 2009 et une volonté de changement. Un conseil constituant composé d'Islandais de tous horizons s'était lancé en 2010 dans sa rédaction participative. Un référendum consultatif national à l'automne 2012 a validé l'utilisation de cette ébauche comme base pour une révision constitutionnelle avec l'approbation de 2/3 des Islandais, sauf que depuis plus rien. Helga Baltvins au Pierkatotir, présidente de l'Association des femmes pour une nouvelle constitution et l'instigatrice de cette pétition.
Cela fait des années que nous militons, mais aujourd'hui, sans doute en lien avec la Covid-19, il y a une prise de conscience croissante que nous devons tous nous montrer solidaires et changer les valeurs sur lesquelles nous basions notre vie.
La loi fondamentale islandaise actuelle, en vigueur depuis 1944 et amendée 8 fois, puise son origine dans la constitution danoise, dont l'Islande dépendait précédemment, et dont certaines parties remontent à 1849 et ont complètement perdu leur sens aujourd'hui.
C'est d'ailleurs au Parlement que cette pétition sera enfin remise demain.
Oui, et les attentes de quelques 40 000 signataires, soit plus de 10% de la population, dont Helga Baltrins au Pierkatotir, sont claires.
Nous demandons aux députés de respecter le résultat du référendum de 2012 et nous leur demandons d'avoir le courage de proposer les révisions constitutionnelles élaborées par le Conseil constituant et de délibérer dessus.
À terme, une partie des révisions constitutionnelles pourrait être adoptée après les prochaines élections législatives dans un peu moins d'un an.
Jérémy, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce projet a bloqué jusqu'ici ?
Si le projet a été porté par la société civile, il n'y a jamais eu, au cours des 8 dernières années, de majorité au Parlement pour l'adopter. Et l'élaboration participative du texte a aussi ses limites. Les modifications proposées portent sur des sujets aussi divers que le rôle du président, la propriété nationale des ressources naturelles, la protection de l'environnement et de la nature ou encore la langue islandaise. La rédaction du phrasé exact pour beaucoup de ces contenus a du mal à faire consensus et aucun réel débat n'a eu lieu sur ces sujets au Parlement. Ólafur Þórður Harðarson est professeur de sciences politiques à l'Université d'Islande.
Dans les propositions du Conseil constituant, il y a beaucoup de choses controversées et qui nécessitent, je dirais, beaucoup plus de discussions. Je suppose donc que cette nouvelle approche consistant à reformuler plus progressivement la Constitution est une approche plus pragmatique dans laquelle il sera possible d'approuver des changements importants.
En décembre 2017, la coalition actuellement au pouvoir s'est engagée à une révision complète de la Constitution avec la participation de la société civile. La première ministre Katrín Jakobsdóttir a notamment présenté un plan dans lequel la loi fondamentale serait révisée d'ici 2 mandats. Le premier prend fin en septembre prochain.
Merci Jérémy Richard, à bientôt. Le long chemin des migrations, le photographe Samuel Grattacap s'est arrêté sur cette route migratoire à la frontière entre la France et l'Italie. Il expose son travail bilatéral France-Italie dans le cadre du festival Photonal. Il s'intéresse à tous ces citoyens solidaires qui viennent orienter les migrants pour ne pas qu'ils se perdent en montagne en traversant la frontière. Il est au micro de Frédéric Lebel.
Tout l'enjeu de ce travail-là, ça a été aussi quel visage à cette solidarité, quel visage je peux donner à cette solidarité. C'est vrai que c'est des profils en fait très différents de personnes qui ont entre 16 et 99 ans, qui s'engagent auprès des gens, alors sous la forme d'aide et d'accueil, aussi sur la forme de maraude en montagne pour venir en aide aux gens qui se seraient perdus, qui sont des personnes qui en fait sont des volontaires, sont des maraudeurs qui potentiellement sont mis du coup en accusation par la justice française pour une accusation d'aide à l'entrée illégale sur le territoire, alors qu'en fait, bon, en l'occurrence, ils les accompagnent pas. Moi, je suis témoin de ça quand je suis avec eux. Ils sont dans un rôle d'observateur et du coup de protection et d'orientation. Il y a eu des morts quand même dans cette région-là. Il y a eu 3 morts. Plus les disparus, parce qu'il y a des gens qui ont disparu, parce que l'hiver, en fait, se sont fait recouvrir des corps qui ont été retrouvés après à la fonte des neiges.
Quand vous êtes côté italien, vous découvrez aussi tout le réseau de passeurs qui font du trafic dans la région.
En fait, des gens un peu scrupuleux essayaient de tirer de l'argent de ces pauvres personnes qui essayaient de passer en leur promettant un passage, alors qu'en fait, il suffisait de prendre un bus pour arriver jusqu'à Clavière et après les abandonner en leur disant c'est tout droit, quoi. Alors qu'en fait, il y a quand même 10 km en montagne qui séparent la ville de Clavière de Briançon. Et ces 10 km-là, forcément, ces personnes-là vont pas prendre des GR parce que c'est là aussi où se promènent des gendarmes, la police aux frontières. Voilà. Du coup, moi, ce que je découvre aussi, c'est que toute la répression à la frontière, tout cet effet de course et de chasse aux migrants dans la frontière, ben, entraîne des comportements à risque sur les déplacements de population.
Toutes vos photos sont prises, bien sûr, à l'extérieur, dans un paysage de montagne, un paysage dangereux, et ça, c'est pas anodin. Il y a à la fois le relief et il y a la météo qui sont de gros dangers.
Je l'ai travaillé vraiment, cet espace-là, comme vous le découvrez, et comme le spectateur pourra le découvrir. C'est un espace qui est en couleur et en noir et blanc. La couleur joue un rôle hyper important, et l'esprit créatif joue un rôle hyper important dans la solidarité même. C'est un petit peu le petit poussé, c'est-à-dire qu'en fait, vu que notre État, qui est censé être un État de droit, interdit et forcément condamne l'aide illégale à l'entrée sur le territoire, en fait, il y a des subterfuges pour non pas aider, mais du moins orienter des personnes qui pourraient être mises en danger dans la montagne et se perdre. Et en fait, ben, y a du balisage qui se fait. Donc ce coup de bombe qui a été apposé par un activiste va être voué à disparaître avec le temps, l'érosion, tout ça. L'écharpe que vous voyez au sol, ça c'est un objet qui a été laissé par quelqu'un qui est passé pour indiquer la route en fait aussi, pour éviter que d'autres personnes se perdent.
Jeu sur la couleur, le noir et blanc, travail de sérigraphie en écho à ces balises laissées en montagne. Les photos de Samuel Grattacap sont à retrouver au Quadrilatère à Beauvais jusqu'au 3 janvier prochain. Accent d'Europe à la réalisation. Victor Hull, vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.